أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون.
الحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونستشهده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أفعالنا وأعمالنا وأقوالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلن تجد له وليا مرشدا. ونشهد أن لا إله إلا الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لا ند له يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. يعلم ما كان ويعلم ما سيكون ويعلم ما لم يكن إذا كان كيف يكون. أشهد ذلك شهادة نطق باللسان وإقرار بالجنان وعمل بالأركان. ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقدوتنا ورائدنا وزعيمنا وأستاذنا ومعلمنا محمدا صلى الله عليه وسلم نبي الله ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من الله وتركنا على المحلة البيضاء على الطريقة الواضحة الغراء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. صل اللهم عليه وعلى آله وصحبه وعلى من اقتفى أثره ودعا بدعوته وسلك سبيله إلى يوم الدين. اللهم آت نفوسنا تقواها زكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. وبعد معاشر المؤمنين الكرام. Le prêche d'aujourd'hui est un prêche commun, si vous voulez, entre ceux qui vont venir bi'idnillahi azza wa jal et ceux qui ont précédé bi'idnillahi tabaraka wa ta'ala. À partir de la semaine prochaine, je vais vous en parler, inshallah, de l'immigration du prophète alayhi salatu wa salam et surtout, bien sûr, des enseignements et des leçons à tirer de cet événement-là. Et précédemment, on était en train de parler des tests, des épreuves d'Allah subhanahu wa ta'ala et quelle attitude et comment se comporter vis-à-vis des tests et des épreuves émanant d'Allah tabaraka wa ta'ala. Le vendredi dernier, qui a coïncidé avec l'Aïd, le prêche du vendredi était la conception de l'espoir, l'optimisme dans le pire, comme étant une règle de comportement vis-à-vis des épreuves d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est parce que c'est un enseignement de l'immigration du prophète alayhi salatu wa salam. C'est pour cela que je suis en train de vous dire que c'est un prêche de transition vers le fait de parler de l'immigration du prophète alayhi salatu wa salam. Pour ceux et celles qui étaient avec nous vendredi dernier, en parlant de l'espoir, en parlant de la conception de l'espoir, je vous ai parlé de cela à travers le Coran al-Karim. Et bien sûr, je vous ai dit qu'il y a énormément d'exemples. Et ces exemples-là, on n'avait pas eu le temps d'en parler. C'était juste un exemple à la rapide. Et c'est l'exemple de Khabbab ibn al-Hirt avec le Nabi alayhi salatu wa salam dans la période niquoise. Quand tout était sombre, Khabbab ibn al-Hirt est venu voir le Nabi sallallahu alayhi wa sallam pour lui dire « Est-ce que tu ne peux pas implorer le secours d'Allah azza wa jal ?» Et on a parlé de cela. Et je vous ai dit, inshallah subhanahu wa ta'ala, on va prolonger cette droite-là et je vais vous en parler d'un certain nombre d'exemples bi'idnillah azza wa jal à travers le Coran al-Karim. Et quand je dis des exemples à travers le Coran al-Karim, je vais citer des prophètes et des messagers d'Allah tabaraka wa ta'ala à travers la sira, la biographie de l'Abbas al-Sallam. Donc je vais parler de certaines stations dans la vie du prophète al-Abbas al-Sallam et bien sûr, on ne peut pas ne pas parler de deux, voire trois stations dans l'histoire des musulmans, bi'idnillahi azza wa jal, pour confirmer que cela et pour vous dire que l'espoir, l'optimisme, c'est quelque chose de mise dans la vie du croyant, dans la vie du cheminant. Un musulman, un croyant, ne doit pas abdiquer, ne doit pas se soumettre au désespoir, bi'idnillahi tabaraka wa ta'ala, au pessimisme, bi'idnillahi azza wa jal, mais il faut toujours garder, ne serait-ce qu'une lueur d'espoir et placer toujours sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Sallu ala rasulillah. Donc le premier des exemples est dans le Coran al-Karim. Et c'est l'exemple de Sidna Yaqub alayhi wa ala nabiyyina salatu wa salam. Jacob, le père de Joseph, de Sidna Yusuf alayhi wa ala nabiyyina salatu wa salam. Vous savez que Sidna Yaqub avait 11 enfants. Dont deux, ils se détachaient. Youssef et son frère Benjamin, qu'il aimait beaucoup plus que les autres. Et ça a créé une jalousie mortifère, qui a poussé ces frères-là à imaginer tout un stratagème pour se débarrasser de Youssef alayhi salam, pour avoir à eux seuls l'exclusivité de l'amour de Sidna Yaqub alayhi wa alayhi wa sallatu wa salam. L'essentiel, ils ont imaginé un stratagème et ils ont appliqué tout cela et ils se sont débarrassés de Sidna Yusuf alayhi salam. Et Sidna Yaqub se retrouve dans une épreuve, c'est quoi cette épreuve-là? De se trouver séparé de son enfant, le bien-aimé. Il aimait Sidna Yusuf alayhi salam par-dessus tout. C'est le bien-aimé de tous ses enfants, il est à Baraka wa Ta'ala. Sauf que, quand Yusuf alayhi salam a quitté la maison, quand il s'est séparé de Sidna Yaqub alayhi salam, la durée, hein, après son retour, c'était de combien? Hein? 40 ans, Baraka wa Ta'ala. C'était pas une année, c'était pas 2 ans, c'était pas 10 ans. Le temps que Sidna Yusuf alayhi salam est sorti de la maison, jusqu'à son retour, s'est écoulé 40 ans. Et pendant ces 40 ans-là, Sidna Yaqub alayhi salam a eu une autre épreuve de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est que le deuxième enfant, dont le degré d'amour était juste après celui de Sidna Yusuf alayhi salam, il a perdu. On connaît tous l'histoire. Benjamin va avec ses frères en Égypte. Le ministre de l'époque, c'est Sidna Yusuf alayhi salam, lui aussi imagine un stratagème pour récupérer son frère, et donc son frère rentre en prison. Quand les enfants retournent voir leur père Sidna Yaqub alayhi salam, quelle était l'attitude de Sidna Yaqub alayhi wa alayhi wa sallam? Sidna Yaqub alayhi salam, quand on lui a dit, on vient de perdre notre deuxième frère, qu'est-ce qu'il a dit? Asa Allahu an yatiyani bihim jami'a. Peut-être qu'Allah subhanahu wa ta'ala fera les revenir qui? Benjamin, c'est tout. Benjamin, c'est tout. Les deux. Subhanallah. Pour Benjamin, il n'y a pas de problème. On vient de le perdre. On sait où il est. Il est en Égypte et en prison. Même si tu veux y aller le voir, même si Sidna Yaqub veut aller le voir, il peut aller le voir sans aucun problème. Il peut discuter avec lui. Il peut même pouvoir obtenir sa liberté. Mais Sidna Yusuf alayhi salam, mais ça fait des années que tu l'as perdu. Mais pourquoi tu parles? Mais pourquoi tu parles de Sidna Yusuf alayhi salam? Pour nous apprendre quelque chose de nous. Et c'est ça l'essentiel, c'est qu'il faut toujours avoir espoir. Il ne faut jamais perdre espoir. Il faut être toujours optimiste, quelle que soit la situation. Mais cette situation, normalement, elle est désespérée. Mais ça fait des années, 20 ans, 30 ans qu'il a perdu Sidna Yusuf alayhi salam. On lui a dit qu'il était mort. On lui a ramené des preuves. Entre parenthèses, qu'il était mort, et malgré cela, Sidna Yaqub alayhi salam n'a pas abdiqué. Sidna Yaqub alayhi salam n'a pas cédé au désespoir, au pessimisme. Il a toujours gardé cette lueur d'espoir, comme quoi Youssef alayhi salam reviendra un jour. Après un certain temps, que dit Sidna Yaqub alayhi salam à ses enfants? Ya baniya, idhabu fatahassasu min Youssef wa akhih. Allez-y, enterrez-vous de Joseph et de son frère. Allez-y, informez-vous de Joseph et de son frère. Quoi? Benjamin, on sait où est-ce qu'il est. Il est où? Il est en Égypte. Il est en prison. On peut y aller le voir. On peut aller voir Youssef alayhi salam. Ils savent pas que c'était Youssef alayhi salam, que c'était leur frère. On peut demander sa liberté. Et on va chercher où Youssef alayhi salam? Mais l'autre, on va le chercher où? Mais ça fait 30 ans, ça fait 40 ans qu'on l'a perdu. Pourquoi tu nous demandes aujourd'hui d'aller le voir? On va en Égypte? On va au Chine, on va au Maghreb, on va ci, on va cela, mais on ne peut pas le faire. C'est comme chercher dans une botte de foin. C'est pas normal tout ça. Mais Sidna Yaqub alayhi salam est en train de nous apprendre quelque chose de mis. C'est l'espoir, c'est l'optimisme de Dieu tabaraka wa ta'ala. Ne jamais céder au désespoir de Dieu azza wa jalla. Et la fin, on la connaît tous. Non seulement c'est Benjamin qui est revenu, mais avec Youssef alayhi salam, après 40 ans d'absence, inshallah tabaraka wa ta'ala. C'est pour cela que je le dis et je le répète, quelle que soit la situation, quelle que soit la crise, quelle que soit où on est, bi'idhnillahi tabaraka wa ta'ala, si on veut une issue favorable, gardons toujours espoir. Soyons toujours optimistes et inshallah subhanahu wa ta'ala, l'issue favorable viendra de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Deuxième exemple rapidement, c'est Sidna Moussa alayhi wa nabina salatu wa salam. Il montre qu'on est la confrontation qu'il y a eu entre Sidna Moussa alayhi salam et Fir'aoun. Et les magiciens de Sidna Fir'aoun, les magiciens de Fir'aoun, sallallahu les magiciens de Fir'aoun. Et l'issue c'était pour Sidna Moussa alayhi salam. La victoire, le triomphe, c'était du côté de Sidna Moussa alayhi salam. Et les gens qui assistaient ont eu de doutes. C'était sur le doute sur Fir'aoun, sur celui qui se prétend être un seigneur à la place de Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui se déclare divinité à la place de Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc les gens commençaient à croire en Sidna Moussa alayhi salam. Et quand Fir'aoun a ressenti cela, et quand Fir'aoun a vu que la cote de confiance de son peuple était en train de s'effriter, qu'est-ce qu'il a fait? Il a décidé d'une solution radicale, c'est de se débarrasser de Moussa alayhi salam, de se débarrasser de ceux et celles qui étaient avec cette Moussa alayhi salam. Il a pris son armée, il a couru derrière Moussa alayhi salam, et ce Moussa alayhi salam, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit se sauver. Sauf que se sauver, il est arrivé dans une issue, dans une voie sans issue. Il est arrivé à côté de la mer. La mer derrière et l'ennemi devant. Que doit faire Sidna Moussa alayhi salam? Il n'y a pas de barque, il n'y a pas de bateau pour se sauver. Et donc, les gens qui étaient avec Sidna Moussa alayhi salam, qu'est-ce qu'ils ont dit? Qala ashab Moussa inna la mudrakoun. Tout ça pour ça? Tu as fait tout ça pour nous faire arriver cela? Et c'est ça notre fin? Et on sera tué comme des rats? Et on sera exterminé par Pharaon? Et on sera ci, on sera cela? Un musulman, un croyant, un cheminant, de l'époque du prophète Hassan, aujourd'hui, de l'époque de Sidna Moussa, de l'époque de Sidna Lou alayhi salam, ne doit pas dire ça. C'est interdit pour un musulman de dire ça. C'est interdit pour un cheminant de dire ça. Normalement, un cheminant doit toujours avoir une lueur d'espoir. Encore une fois, quelle que soit la situation, quelle que soit la gravité de la situation, il doit toujours avoir de l'optimisme et toujours avoir de l'espoir. C'est ainsi que Sidna Moussa alayhi salam est intervenu pour leur dire, Kella, je vous interdis de dire ça. Je vous interdis de penser à ça. Kella, inna ma'i rabbi sayyidin. Mais qu'est-ce que vous en faites d'Allah subhanahu wa ta'ala? Mais c'est quoi Fir'aoun? Mais c'est quoi l'armée de Fir'aoun devant l'armée d'Allah subhanahu wa ta'ala? Devant Allah subhanahu wa ta'ala. D'ailleurs, on le voit. Le monde entier, c'est pas le tiers-monde des fois, c'est pas le monde occidental, c'est le monde entier est incapable de trouver une solution à un petit virus. Mais c'est quoi un petit virus? C'est non pas un petit virus, c'est quelque chose de microscopique. C'est quoi cette force devant la force d'Allah subhanahu wa ta'ala? Rien du tout, tout est éphémère devant Allah tabaraka wa ta'ala. C'est pour cela qu'il leur a dit, je vous interdis de penser ça, je vous interdis de dire ça. Kalla inna ma'i rabbi sayyidin. Allah est avec moi. Et c'est à ce moment-là qu'Allah azza wa jal a enjoint à Sidna Moussa alayhi salam avec sa canne de taper la mer. Et là, il s'est effrayé un chemin, et Sidna Moussa alayhi salam, ainsi que ceux avec lui se sont sauvés. Leur salut était par là et Fir'aoun et son armée ont trouvé leur mort dans cette situation-là. Pour vous dire tout simplement encore une fois ce que a fait Sidna Moussa alayhi salam. La déclaration de Sidna Moussa alayhi salam est un appel à quoi? Est un appel à l'optimisme. Est un appel à toujours garder, ne serait-ce qu'une lueur d'espoir et toujours placer sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Le Nabi alayhi salatu wa salam, dans la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, énormément de stations qui nous interpellent, qui nous incitent, qui nous appellent à avoir toujours de l'espoir, à avoir toujours de l'optimisme, bi-nillahi azza wa jalla. Et parmi ces stations, une station dont on raconte tout le temps, c'est la station de At-Ta'if. Je vous ai dit précédemment qu'à un moment donné, quand il y avait un blocage de la da'wa à la Mecque, quand les gens ne rentraient plus dans la religion de la subhanahu wa ta'ala, Nabi sallallahu a décidé de changer d'endroit et de changer de personne. Nabi a voulu chercher une base arrière pour la religion, pour protéger la religion de la subhanahu wa ta'ala. Donc, il est allé à At-Ta'if. Il a choisi At-Ta'if parce qu'à At-Ta'if, il y avait des gens, parce qu'à At-Ta'if, il y avait une situation stratégique et qu'il puisse, bi-nillahi tabaraka wa ta'ala, être une base arrière pour la religion de la subhanahu wa ta'ala. Sauf que tous les espoirs de Nabi alayhi salatu wa salam à At-Ta'if ont été ruinés. Il a été reçu, comme je vous ai dit la dernière fois, avec un comité de racailles. La racaille de la racaille avec des pierres. avec des bâtons, étaient à la rencontre de Nabi Sallam. Ils ont couru derrière Nabi Sallam. Ils ont frappé Nabi Sallam. Ils ont même ensangloté le corps noble du prophète alayhi salatu wa salam. Et à ce moment-là, Nabi Sallam s'est fondu d'un doua extraordinaire, exceptionnel, que je ne peux pas m'empêcher de le répéter encore une fois. Allahumma ilayka ashkuru wa quwwati wa qillata hilati wa hawani ala nas. يا أرحم الراحمين أنت رب المستضعفين وأنت ربي إلى من تكلني إلى بعيد يتهجمني أنت يا عدو ملكته أمري إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي ولكن رحمتك هي أوسع لي أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن يحل بي سخطك أو أن تنزل بي غضبك لك العتب حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بك. Et vous le savez, juste après la fin de ce dua, Nabi alayhi sallam s'est retrouvé en présence de l'ange Gabriel. Pas seul, accompagné d'un autre ange. L'ange s'est chargé des montagnes pour dire à Nabi alayhi sallam, si tu veux les détruire, si tu veux qu'on les extermine, si tu veux qu'on leur réserve le même sort que les cités de Lot, demande-lui. Donne-lui l'ordre et il va le faire maintenant. Et Nabi alayhi sallam de dire, cette phrase, quand je vous ai dit, qu'on doit écrire avec des lettres en or, bénédicte Azza wa Jal, Allahumma khfir li khawlika innahum la ya'lamoun. Ya Allah, pardonne à mon peuple, ce sont des ignorants. Et derrière, quand je vous parle de l'optimisme, quand je parle de l'espoir, que dit Nabi Azza wa Jal, La'anna Allah an yukhrija min aslabihim, ou min aslabi aslabihim, min ya'budu Allah Azza wa Jal. Et qu'est-ce que tu en sais, ya Jibril? Et qu'est-ce que vous en savez? Et que peut-être de leur progéniture, il y aura des gens qui vont porter haut la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est de l'espoir. Ça, c'est de l'optimisme de la part de Nabi alayhi sallam. Dans une telle situation, dans une catastrophe comme celle-ci, Nabi alayhi sallam garde toujours espoir et dire que peut-être ces gens-là, c'est cuit pour eux, c'est irréversible pour eux, c'est cause entendue pour eux, ils ne rentreront jamais dans l'islam, mais peut-être leurs enfants, les enfants de leurs enfants, ils seront dans l'islam. Et c'est vrai, Abu Jahl. Mais de l'autre côté, il y a quelqu'un qui s'appelle Ikrima ibn Abi Jahl. Le fils de Abu Jahl, c'est l'un des plus grands compagnons du prophète, alayhi salatu wassalam. Souhayl ibn Amr, peut-être que ce nom ne vous dit rien du tout, mais c'est quelqu'un qui a fait des misères et des misères aux musulmans dans l'accord de Al-Hudaybiyah. Ce Souhayl ibn Amr, ses enfants tous étaient dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Lui, non, c'était un ennemi, et un ennemi avéré de l'islam et des musulmans, mais leurs hommes et ses enfants étaient dans l'islam, et là, c'est un discours, si vous voulez, d'espoir et d'optimisme que veut nous enseigner Al-Nabi alayhi salatu wa salam. Je vous ai dit, c'est commun entre l'hijra, l'immigration, et comment se comporter avec les événements. Parce que l'autre situation qui est dénonce de cet espoir qui anime Al-Nabi alayhi salam, même dans les situations les plus délicates et les plus difficiles, c'est justement l'immigration du prophète alayhi salatu wa salam. Vous savez que Al-Nabi alayhi salam, quand il est parti, sa tête a été mise à prix. 200 chamelles pour celui qui ramène le Nabi alayhi salatu wa salam et son compagnon Abu Bakr, hein, vif ou mort. 200 chamelles. À l'époque, 200 chamelles, ça veut dire quoi? Que tu deviens l'un des plus riches personnes de la péninsule arabe. Il y avait une personne qui s'appelait Suraqa ibn Malik. Il a vu cela, il a dit oui, c'est l'occasion de ma vie. Voilà. Et en plus, il avait des éléments. Il avait des indices qui disaient que Nabi Sallam ne passait pas loin de chez lui. Donc il a dit, je ne vais pas faire beaucoup d'efforts et je vais faire une petite embuscade pour Nabi Sallam et je vais le tuer et peut-être je vais le capturer et je vais avoir cette rançon de 200 chamelles. Cela, Abou Malik, avant de sortir de chez lui, c'est une tradition chez les Arabes. Le musulman aujourd'hui, quand il veut faire quelque chose, il va faire salat istikhara, la prière de la consultation. Eux, ils ont une pierre sur laquelle ils crient, c'est plus le face. Je fais pas. Il fait son tirage au sort. Si ça sort, je ne fais pas, il ne le fait pas. Si ça sort, je fais, il le fait. Mais lui, ce rapport, tout lui dit de ne pas le faire. Il a fait la première fois, ne fait pas. La deuxième fois, ne fait pas. La troisième, ne fait pas. Mais le ventre est gros. Il vaut les 200 chamelles. Il voulait la rançon. Il a dit, malgré les circonstances, je vais essayer de rattraper Nabi alayhi salam et de gagner cette rançon. Et non, il va. Et il récupère le Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Il arrive jusqu'à Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Et il prend son épée pour faire peur à Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Et au moment où il veut utiliser son épée, qu'est-ce qui se passe? Le sable, il devient moulant. Donc il a aspiré. Et le cheval, il se rattrape au mec. Et quand c'est un retour, on va se rattraper au mec pour lui dire, mais tu ne peux rien me faire. Mais tu ne peux rien me faire. Tes efforts sont vains. Yasuraqa rentre dans l'islam. Yasuraqa dit, Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Yasuraqa ne veut pas. Et vers la fin, je vous parle d'espoir. Je vous parle d'optimisme. Que dit le Prophète Yasuraqa? Yasuraqa, qu'est-ce que tu en dis? Un jour, alors que tu es chez toi, on t'appellera pour te dire, viens, on va te mettre les habits de Kisra, le roi des Perses. Et on te mettra la couronne de Kisra, le roi des Perses, l'Ibn Azzawajal. Quoi? Est-ce qu'on a aidé à Jama'a de la situation dans laquelle était le Nabi alayhi salatu wasalam? Il y a 2 jours, voire 3 jours en arrière, Quraysh a failli capturer le Nabi alayhi salatu wasalam. Quand il était dans la grotte de Thawr, Abu Bakr disait, Wallahi, par Allah, si l'un d'eux regardait vers leurs pieds, il va nous voir alors qu'on était là-bas. Abu Bakr tremblotait dans la trompe, dans la grotte de Thawr. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui dire, La tahsan illallaha ba'ana, ne t'afflige pas, Allah subhanahu wa ta'ala est avec nous. Le Nabi alayhi sallallahu alayhi wa sallam, quand il sortit de la Mecque, il n'est pas sorti avec les honneurs, il n'est pas sorti avec de l'armée, il n'est pas sorti en sécurité. Les gens le pourchassaient. Il était seul, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Il ne restait avec lui qu'Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu. Et ensuite, il va aller à Médine. Mais qu'est-ce qu'il y a à Médine? Est-ce que tout est sécurisé à Médine? Est-ce qu'il va avoir ce qu'il voulait? Mais non, rien, Yajama'a. Tant qu'il était dans une situation, ne serait-ce, Yajama'a, pour ne pas noircir le tableau, il était dans une situation très très délicate et très difficile. Et malgré cela, il est en train de dire à Suraqa, écoute, dans peu de temps, quand il va dire, toi, vivons, Yasuraqa. Donc c'est pas dans un siècle. C'est pas dans 50 ans, c'est pas dans peu de temps, Yasuraqa, cette religion-là triomphera. Non seulement elle triomphera dans la péninsule arabe, mais même la terre perse, elle sera soumise à la religion de Allah subhanahu wa ta'ala. Et toi, tu auras sur ta tête la couronne de Kisra. Si c'est ça, n'est pas un message d'espoir. Si c'est ça, n'incite pas à l'optimisme, bi'idhnillah azza wa jalla. C'est quoi qui doit nous pousser à l'optimisme, chers amis? C'est pour ça que je vous le dis, je vous le répète, quelle que soit la situation dans laquelle on est, sur le plan individuel, sur le plan collectif, quel que soit le tableau dans lequel on est, noir comme il doit être, noirâtre comme il doit être, bi'idhnillah azza wa jalla, il faut toujours garder de l'espoir. Et il faut toujours garder de l'optimisme et laisser favorable, c'est juste derrière bi'idhnillah azza wa jalla. Aqulu hadha alladhi tasma'un. وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروا تجد الله غفورا رحيما ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الكريم على الله نتوكل من السعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وبعد معاشر المؤمنين الكرام toujours avec les exemples qui incitent à l'espoir, qui nous incite à se transcender dans les moments les plus difficiles, à être optimiste même dans les pires des cas et dans les pires des situations des différents. C'est vrai, je suis en train de vous parler du prophète, je suis en train de vous parler de Nabi alayhi salatu wasalam, je connais notre esprit un peu tordu. Ouais, tu parles du prophète, ouais, tu parles de Nabi alayhi salatu wasalam. Non, maintenant, je vais vous en parler de 2 stations dans l'histoire des musulmans. Qui n'a rien à voir avec Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Des gens, des hommes et des femmes comme nous, qui ont été dans des situations délicates et très difficiles, et qui ont pu s'en sortir de l'Ibn Azzawajal, grâce à toi, grâce à cet espoir, à cet optimisme qui doit, l'Ibn Azzawajal, animer le croyant et le cheminant de l'Ibn Azzawajal. La première station que je vous ai choisie, ce sont les croisades, chers amis. C'est la conquête par As-Salibiyyin de Jérusalem. Vous savez que les chrétiens, quand ils ont conquis Jérusalem, ils étaient au nombre de 20 000, pas plus. Sauf que les musulmans et sur tous les plans, était dans une situation délicate. Gloire à Dieu. Tous les mots, A-U-X, étaient chez les musulmans. Et surtout, le plus dangereux, le plus grave, c'est cette espèce de défaite intérieure qui m'interdit de réagir, qui me pousse toujours à abdiquer et perdre tout espoir et perdre tout optimisme dans de telles situations. Ils étaient derniers. Ils sont rentrés à Jérusalem, ils ont tué 70 000 musulmans. 70 000 musulmans. Aucun musulman n'a pu s'échapper. Aucun musulman n'a pu s'enfuir, subhanallah. Et tu te dis, mais c'est quoi ces musulmans-là? Mais comment ils n'ont pas pu le faire? Même les femmes n'ont pas été épargnées. Même les vieux n'ont pas été épargnés. Même les petits, même les nourrissons, on les jetait dans l'eau. Et ils avaient de la joie quand tu vois les têtes des nourrissons exploser au contact de la terre, subhanallah, au contact du sol. Ils avaient cela. Il y avait quelqu'un qui disait que le sang des musulmans qui a coulé aujourd'hui atteignait les genoux d'un cavalier sur son cheval. C'est quoi, c'est un mètre? Un mètre de sang? Ou plus? Ça, c'est le sang des musulmans. Une situation comme celle-là, elle incite à quoi? Une situation comme celle-là, elle incite à quoi? Mais bien sûr, pour certains, elle incite au désespoir, au pessimisme. Une situation comme celle-là, les gens disent, hein, mais jamais on va s'en sortir. Mais jamais on va se relever. Absolument pas. C'est dans ces situations-là qu'on doit se transcender, chers amis. C'est dans ces situations-là qu'on doit apprendre notre sort entre les mains de la tabaraka wa ta'ala. C'est dans ces moments-là qu'on doit s'armer d'espoir et d'optimisme de la tabaraka wa ta'ala. C'est à ce moment-là qu'Allah Azza wa Jalla a révélé aux musulmans des hommes extraordinaires, des hommes d'une trempe exceptionnelle de l'univers Azza wa Jalla. Si je vous dis Abu Salma, on a entendu parler de celui-là? Abu Salma, Imad al-Din Zinqi, ça vous dit quelque chose? Nour al-Din Mahmoud, ça vous parle? Cristiano Ronaldo, ça on le connaît tous. Et vers la fin, cerise sur le gâteau, ce sont les gens qui font le travail en amont. Salah al-Din al-Ayyubi, bien sûr, on le connaît tous. Et après 91 ans exactement, les musulmans ont reconquis Jérusalem. Pourquoi? Parce qu'il y avait de l'espoir, il y avait de l'optimisme. Quelle que soit la situation, on ne doit pas céder au désespoir. Quelle que soit la situation, on ne doit jamais céder au pessimisme. La deuxième citation, alors là, quelqu'un qui s'appelle Ibn Athir, l'un des plus grands historiens des musulmans, il me dit, tous les historiens musulmans sont d'accord, sont unanimes sur le fait que la période la plus noirâtre de l'histoire des musulmans, c'est le moment où on a été envoyé par les Mongols, par les Tartares. Depuis l'avènement de l'islam, et peut-être jusqu'au jour du jugement, les musulmans ne pourront pas vivre une telle situation. Donc on n'est pas à une période de déversion célèbre. Tu vas dire, oui, il y a des prophètes, il y a des compagnons. Non, non, non. C'est une période comme celle, encore pire que celle dans laquelle on est aujourd'hui, on traverse aujourd'hui. Donc c'est la situation de l'invasion des Tartares, des Mongols, du monde musulman. Je ne peux pas vous en parler pendant 5 minutes, 10 minutes. Il faut des conférences et des conférences pour parler de cette période-là de l'histoire. Mais je vous dis tout simplement que ces fameux Tartares, ces fameux Mongols, quand ils sont arrivés à Bagdad, la capitale de l'islam, ils ont tué 1 million de musulmans. Et s'ils arrivent à tuer 1 million de musulmans, ça veut dire encore une fois que tous les mots Amalux, et surtout, cette espèce de défaite intérieure était chez les musulmans. Et plus l'Adir disait qu'un Tartare, un Mongol, qu'est-ce qu'il fait? Il rentre dans une mosquée, il rentre dans un marché, il rentre dans une ville, et il dit à tous les musulmans, préparez-vous, mettez-vous en rang, je vais ramener mon couteau et je vais vous égorger tous. Aujourd'hui, tu dis à ton fils, bien que soit son âge, je vais te punir, qu'est-ce qu'il fait? Il se sort. Il s'enfuit. Des musulmans. Je dis des musulmans parce qu'il disait que l'âge, je ne peux pas me permettre de les appeler autrement. Des musulmans sont à voir un tartare à Mongol, ils leur disent dans la mosquée, vous sortez de la mosquée, vous sortez du marché, vous sortez de votre ville, je vais vous égorger un après l'autre, comme des moutons, comme des agneaux. Et personne ne réagit. Et pour l'aider, vous racontez qu'un tartare à Mongol, il discute avec un musulman, il boit et prend un coup avec le musulman, c'est qu'il dit écoute, j'ai envie de te tuer. Et j'ai rien, avec toi, je vais te tuer. Attends-moi ici, je vais chercher quelque chose et je vais revenir. Une heure, deux heures, trois heures, cinq heures après, quand il revient, il le trouve sur place. Ça s'appelle respecter ses engagements, dans le sens négatif. Parce qu'un musulman doit respecter ses engagements. Ah, je me suis engagé avec lui, je dois le... Mais subhanallah, normalement, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit se sauver. Normalement, c'est pas se sauver, mais il doit se défendre. Mais nous mettons la RT, il va revenir à l'Église. En légitime défense, quand tu meurs en légitime défense, tu es un martyr. C'est un shahid auprès de Allah. Et lui, il ne fait rien du tout. Il est là et il a abdiqué, subhanallah. Quand ils sont arrivés à Bagdad, tous les livres, toute la production musulmane, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont jeté dans le Tigre. Jusqu'à ce que l'eau du Tigre, l'une des plus grandes rivières au monde, est devenue noire de l'encre. On pouvait utiliser les livres comme passerelles pour passer d'un côté à l'autre de la rivière du Tigre, subhanallah. Ils ont tout détruit sur leur chemin. Sauf que, il y a des gens qui ne connaissaient pas le désespoir. Vraiment, c'est une situation, comme je vous disais tout à l'heure, qui incite au désespoir, qui incite au pessimisme. Sauf qu'il y a des gens qui n'ont pas abdiqué à ça. Est-ce que des noms comme Ashraf Alaoum vous dit quelque chose? Al-Mudaffar Qutus, Al-Zahar Bibras Al-Dundaqdal. C'est quoi ce nom bizarre? C'est un nom d'un mort. Quand bien même il est bizarre pour nous, c'est un mort, mais quand même. L'état des esclaves, Dawlat al-Mamani, Al-Iz Ibn Abd al-Salam. Ça nous dit quelque chose, ce nom de savant, extraordinaire, exceptionnel. Vous savez, les musulmans, les responsables à l'époque, ils ont dit pour faire face aux Tartares, à l'invasion Tartare, il faut augmenter les impôts. L'Iz Ibn Abd al-Salam, les très savants, ce n'est pas les savants à deux balles maintenant. Chaque émir a son savant, a son alim, pour lui donner les fêtes, soit dont il a besoin. Non, l'Iz Ibn Abd al-Salam leur a dit écoutez, il faut se mettre au même niveau que tous les citoyens. Tu as un château, tu dois le vendre. Tu as des maisons, tu dois les vendre. Et cet argent-là, ils doivent aller pour préparer l'armée musulmane, les Ikhwan. Ça, c'est des vrais savants. Et ce sont ces gens-là. Ce sont ces gens-là. Injalut. Ça veut dire que vous avez Injalut ? C'est en Palestine. Pendant le mois du Ramadan, que les gens, que les musulmans, que Al-Mamali, que Abbar al-Ibrahim al-Bakhtari, que Mudaffar Qutus, que Ashraf al-Aoun ont battu les Tartares. Et on n'a pas fait Salat al-Tarawih. Ces gens-là n'ont pas fait cette année Salat al-Tarawih. Ils ont été dans le combat, dans le sens d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est ça la vraie religion d'Ibn Azza wa Jal. Non seulement ils avaient le triomphe, mais aussi ils ont pu convaincre ces Tartares pour devenir musulmans et se convertir à la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela que je vous le dis et je vous le répète. Quelle que soit la situation, quel que soit l'état dans lequel on peut y être, il faut avoir toujours, ne serait-ce qu'une lueur, qu'une petite dose d'espoir et on s'en sortira. Et l'espoir est là pour le contribuer. Coronavirus, pas coronavirus. Situation économique difficile, pas situation économique difficile. Maladie, pas maladie. Normalement, toujours espoir, espoir, espoir. Optimisme, optimisme, optimisme. C'est à ce moment-là qu'on doit s'armer de cela. Allah nas'al an yaj'alna min al-muslimin wa yaqbal minna salam. Allahumma salli ala sayyidina wa sayyidina wa tuqa. Nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbalan wa lisanan dhakira wa qalban khashi'an wa jasadan 'ala al-bala'i sabira wa na'udhu min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min 'aynin la tadma' wa min nafsin la tashba' wa min du'a'in la yustajab lahu. Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin. Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin. المسلمين، اغشوا ارضانا وارض المسلمين، ارحم موتانا وموتى المسلمين، اغفر لنا ولوالدينا ولمن كان له فضل علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات، ولكل من طلب منا الدعاء ولكل من طلب منه الدعاء، وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين. اخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم اجمعين.